Je vous invite ce matin à ouvrir nos Bibles dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, pour une lecture du verset 1er jusqu'au verset 7. Et ce message clôturera cette série que j'ai intitulée « Une vision apostolique de l'Église ». Deux Rois, chapitre 4, verset 1er à 7. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Et elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Elle dit « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le reporter à l'homme de Dieu et Élisée dit « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. » Beaucoup de belles choses ont été écrites ou prêchées sur ce passage très inspirant. Et récemment, le Seigneur m'y a ramené en vue d'une lecture plus personnelle, avec une application directe, je l'espère, pour l'Église et chacun d'entre nous, une lecture qui est aussi une application des principes de la vision apostolique dont j'ai parlé ces dernières semaines. Et à partir de ce texte, je voudrais considérer trois choses ce matin. La première, c'est que Dieu veut faire un miracle dans une situation de crise. La seconde, c'est que dans nos maisons, nous avons la base nécessaire au miracle de Dieu. La troisième chose, c'est que c'est notre foi et notre vision qui donneront au miracle sa puissance, son ampleur. Et dans ce texte, il s'agissait pour la veuve d'aller chercher des vases en dehors de chez elle. Et je prendrai ensuite le temps d'en faire une application pour notre assemblée, Dieu voulant, car je perçois véritablement ce texte comme la trame, le scénario de cette vision que j'ai placée il y a quelques mois devant vous. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout d'abord, nous retrouvons une femme qui est dans une situation sans issue. Une véritable situation de crise. Et que pouvait donc bien faire à vue humaine cette pauvre femme pour s'en sortir? Elle était veuve. Une veuve sans ressources. Et en plus, une veuve débitrice d'un créancier méchant qui n'hésite pas à la menacer de venir prendre ses deux enfants. Dans une telle situation, cette pauvre femme n'avait aucun espoir de s'en sortir par elle-même. Aussi, elle choisit la bonne voie, celle de se précipiter vers l'homme de Dieu, vers Élisée. Et elle n'alla pas vers lui simplement pour lui demander quelque chose, mais le texte nous dit qu'elle cria son besoin d'être aidée. Car dans la situation qui était la sienne, seule une intervention divine pouvait changer le cours des choses. Elle avait besoin d'entendre la parole de Dieu. Elle avait besoin de recevoir de la part du prophète une parole qui pourrait lui apporter une espérance, qui pourrait la conduire vers une délivrance, une parole de puissance. Mais peut-être ne s'attendait-elle pas tout à fait à la parole qu'Élisée lui communiqua. Parce que la parole de Dieu qui sortit par la bouche du prophète était aussi une parole qui allait mettre au défi cette femme. Car le miracle qu'elle espérait tant ne se ferait pas par un claquement de doigts. Dieu est créateur, mais il n'est pas magicien. la parole du prophète, pour se réaliser, allait impliquer totalement cette femme dans ce qu'elle avait et dans ce qu'elle ferait. Et nous allons voir en fait que c'est elle qui allait être l'enclencheur et le déclencheur de ce miracle. Elle allait en être l'amorce et le détonateur. Dieu en serait l'étincelle. Et nous allons voir aussi que c'est elle, par sa foi et sa vision, qui en déterminait ce qui en serait la puissance et l'étendue. Dieu veut faire un miracle. Dieu veut faire un miracle dans ta vie, dans ta famille. Dieu veut faire un miracle ici à Paris. Dieu veut faire un miracle dans notre assemblée. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, Dieu est capable d'agir. Mais ce miracle ne surgira pas comme venant de nulle part. Il viendra de la parole de Dieu, mais il s'accomplira avec nous. Il s'accomplira à travers notre foi dans la parole de Dieu, à travers notre engagement à appliquer la parole de Dieu et à travers notre amour pour ceux qui nous entourent, qui sont perdus et qui sont sous la menace de ce créancier qui s'appelle Satan. À travers ce texte, nous pouvons véritablement décortiquer ce qu'est le processus d'un miracle. Tout d'abord, nous disons que la réalisation d'un miracle est le fruit de la grâce et de la compassion de Dieu. Et c'est particulièrement vrai dans le cas de cette femme. Mais il est aussi le fruit de notre foi, de la foi d'un homme, de la foi d'une femme. Dans un message sur les mathématiques divines que j'ai apporté l'année dernière, j'ai déjà illustré le principe du miracle en l'associant à une opération de multiplication. Dans une multiplication, nous avons trois éléments. Nous avons d'abord le multiplier. On dit la table de 2, de 3, de 4, c'est le multiplier. Le multiplier, c'est la base de la multiplication, c'est la base du miracle. Et pour qu'il y ait multiplication, il faut qu'il y ait au moins un. Je voudrais vous dire qu'en toute situation, il y a au moins une chose. Deuxièmement, il faut un signe opératoire, le signe de la multiplication. C'est le signe de la puissance et de l'intervention de Dieu. Dieu n'est pas celui qui se contente d'ajouter. Dieu est le Dieu qui multiplie. Troisième élément de l'opération du miracle, le multiplicateur. Le multiplicateur, une fois deux, deux fois deux, trois fois deux, quatre fois deux, dix fois deux, autant que vous voulez. Et ce multiplicateur, c'est la puissance de notre foi. Ce multiplicateur est ce qui va déterminer l'étendue du miracle. Et nous retrouvons ces trois choses dans le passage que nous venons de lire. La première chose que nous allons voir, c'est que la base nécessaire à la multiplication, même si elle n'est que de un, est dans notre maison. Dieu est créateur. Et il pourrait susciter des miracles sur la base de rien du tout. Il est créateur ex nihilo. L'apôtre Paul dit dans Romains 4, 17 qu'il est celui qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Mais nous constatons tout au long des Écritures que Dieu se plaît à utiliser une base à partir de laquelle il accomplit le miracle. Trois choses à considérer sur cette base, je vais les développer ensuite. La première, c'est que cette base se multiplier est ce qui va permettre l'enclenchement du miracle. La deuxième chose, c'est que cette base est dans sa nature en rapport avec le miracle attendu. Ils sont de la même nature. Seulement, concernant la base, sa taille et sa puissance sont limitées et sous-dimensionnées par rapport aux besoins. Je vais vous le montrer. Troisième point très important, cette base du miracle est entre nos mains. Elle est entre les mains de ceux qui attendent le miracle, ou tout du moins, elle est à côté d'eux. Alors laissez-moi vous donner quelques exemples bibliques de cette base. Il y a les 300 hommes de Gédéon. Mais qu'était-ce 300 hommes face à l'armée de Madian, 135 000 hommes montés sur des chameaux? Il y a le peu de farine et d'huile de la veuve de Sarepta, vers qui le prophète Élie a été envoyé pour être nourri pendant la famine. Il y a les 20 pains d'orge qui ont été amenés à Élisée pour nourrir l'assemblée des fils des prophètes pendant la famine aussi. Il y a aussi les pains et les poissons qu'un enfant a apporté à Jésus pour nourrir la foule immense. Vous voyez donc une base qui enclenche le miracle, une base qui est de la même nature que le miracle espéré, mais une base qui est souvent limitée, insuffisante, mais en tout cas une base qui est dans la possession des hommes. Dieu attend, premièrement, que nous prenions conscience qu'il existe bel et bien une base pour un miracle dans notre maison. Et celle-ci ne doit pas être ignorée, négligée ou méprisée. Parce que notre réflexe est souvent celui-ci, de dire « je n'ai rien », comme cette femme, de pleurer, de gémir sur ce que nous n'avons pas, alors que Dieu veut nous ouvrir les yeux sur ce que nous avons dans notre maison. Mon frère, ma sœur, la base du miracle que tu espères dans ta vie est dans ta vie, dans ta maison. La base du miracle que nous espérons pour cette ville est dans notre assemblée, au milieu de nous. Alors cessons de pleurer, mais plutôt identifions, conduits par le Saint-Esprit, ce qu'est la base du miracle que Dieu nous a déjà donné. C'est le sens de la question d'Élisée à la veuve. Qu'as-tu à la maison? Qu'avons-nous chez nous? Qu'avons-nous au milieu de nous? Il existe toujours une base pour un miracle. Même si elle n'est que de un, elle existe. Maintenant, la base du miracle est insuffisante, humainement parlant, pour satisfaire le besoin présenté à Dieu. Il ne s'agit pas, pour autant, de pleurer une nouvelle fois, de nous mettre encore à gémir en disant « Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cela ? Ça ne va pas pouvoir régler ma situation. » Il nous faut comprendre, au contraire, qu'il n'y a rien de surprenant dans l'insuffisance de la base que Dieu a identifiée, car la base n'est pas le tout. La base est ce qu'elle est, insuffisante en elle-même pour satisfaire le besoin, mais suffisante pour permettre le miracle. À vrai dire, c'est le Seigneur qui le veut ainsi. Il veut que la base, tout en existant, demeure faible, pour qu'à aucun moment l'homme puisse dire « c'est par ma force ». Nous l'avons étudié. C'est l'image de Dieu qui intervient auprès de Gédéon par deux fois pour réduire son armée. Et il l'a réduit drastiquement, puisque de 32 000 hommes, ils sont descendus à 300. 300, c'est un groupe. Mais 300, qu'est-ce que cela représente face à l'immense armée de Madian? Dieu ne voulait pas que l'armée de Gédéon puisse dire à un moment « c'est par ma force ». Alors il l'a réduit à un point où il ne pouvait être qu'évident que s'il y avait délivrance, elle venait de Dieu. Si Dieu diminue nos ressources, c'est peut-être parce qu'il a un miracle à accomplir. Un point intéressant concernant cette femme, et sur lequel je veux attirer votre attention, c'est à la fin du verset 2, dans sa réponse au prophète Élisée, nous lisons dans la plupart de nos versions que cette femme lui dit qu'à la maison, elle n'a qu'un vase d'huile. En fait, dans l'hébreu, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle dit. Elle emploie un mot d'un usage unique dans l'Ancien Testament. Elle semble dire à Élisée, on peut interpréter les choses de deux façons, elle semble dire, lui dire soit d'abord, j'ai un flacon d'huile. Un flacon n'est pas un vase, c'est une fiole. Ou alors on peut encore comprendre ce qu'elle a dit, comme ceci, j'ai une goutte d'huile. Ce que certains commentateurs estime vouloir dire que cette huile qu'elle avait en sa possession, cette goutte d'huile, n'était pas réservée à la consommation alimentaire, mais qu'elle gardait cette huile pour se parfumer. Car, chose peut-être étrange, mais en tout cas c'était comme ça, à cette époque, c'était la même huile qui était utilisée tant pour la cosmétique que pour la salade. Notez cela, j'y reviens ensuite. Dans le processus du miracle, la première étape est donc d'identifier la base du miracle. Elle est chez nous. La deuxième étape est de regarder à l'étendue du miracle. On pourrait se dire, mais Seigneur, la puissance du miracle, l'étendue du miracle, l'ampleur du miracle, c'est ton travail. Eh bien non, c'est notre responsabilité. Cette femme avait donc reconnu qu'elle avait chez elle la base de son miracle, un flacon d'huile. L'huile était chez elle, mais pour que le miracle s'accomplisse, elle devait verser son huile dans des vases. Or, les vases n'étaient pas chez elle. Et Élisée lui a commandé de sortir de chez elle, d'aller dehors, chez ses voisines, pour prendre des vases et les ramener dans sa maison. C'est intéressant. La base du miracle est chez nous. La puissance du miracle est dehors. Il y a donc dans le miracle ces deux dimensions, une dimension intérieure et une dimension extérieure. Et c'est là qu'on touche aux limites de ce que l'on a à l'intérieur. Souvent, on voudrait que le miracle se passe dans le périmètre que nous connaissons bien, que nous n'ayons pas besoin de découvrir des choses nouvelles, parce que là, Seigneur, j'ai mes repères, là, je connais bien les choses. Quand Dieu nous dit, il faut que tu sortes. Et c'est le défi que le Seigneur nous adresse. Arrêtons-nous encore un instant sur ces vases dont parle Élisée. Le mot veut dire ici ustensile, récipient de cuisine, objet, pour une utilisation ménagère. Ce n'est donc plus le même mot que flacon. Entre un flacon et un ustensile de cuisine, un vase de cuisine, il y a une différence. Une différence de taille, et donc une différence de volume, et aussi une différence d'utilisation. Qui plus est, Élisée insiste sur le nombre de vases que cette femme doit ramener. N'en ramène pas en petit nombre. C'est un point important. Nous devons comprendre que le nombre de vases allait dire ce que serait la puissance et l'étendue du miracle. Par la bouche d'Élisée, Dieu n'a pas mis de limite. Il ne lui a pas dit « ramène 10 vases, ramène 20 vases ». Il l'a laissé libre. C'est elle qui devait sortir et en ramener selon sa foi, en ramener selon sa vision. Autrement dit, c'est elle qui allait fixer les dimensions du miracle. Le contre-exemple, nous le trouvons avec Élisée, le roi Joas. Élisée est mourant, le roi Joas vient le voir. Vous connaissez le passage. Frappe à terre avec ton arc. Et Joas frappe une fois, il frappe deux fois, il frappe trois fois et il s'arrête. Et Élisée se met en colère contre lui, mais tu aurais dû frapper cinq fois, six fois, et tu aurais exterminé tes ennemis. Mais maintenant, puisque tu n'as frappé que trois fois, tu n'auras que trois victoires. Je ne sais pas combien de vases la veuve a ramené. Mais je me dis, à cause de l'enjeu de la situation, cette femme a été audacieuse. Cette femme a été une femme de foi, une femme entreprenante, et quelle que soit la dimension de sa petite maison, j'imagine que la pièce devait être remplie de vases. Des vases partout, des vases de toutes les tailles, des vases de tous les volumes, de toutes les formes. Et maintenant, dans sa maison, elle avait les deux éléments du miracle de multiplication. Elle avait la base, son flacon d'huile, et elle avait le multiplicateur, les vases qu'elle avait empruntés. Il ne lui restait alors qu'à déclencher le miracle, c'est-à-dire remplir les vases d'huile. Parce que l'intérêt d'avoir tous ces vases à la maison n'était pas là pour la décoration, mais ils étaient là pour être remplis d'huile. Et c'est là que nous arrivons à la troisième étape du processus du miracle, perdre la base, perdre son peu d'huile. Elle devait briser son flacon, si c'était le cas, ou donner ces quelques gouttes d'huile qu'elle gardait pour elle-même. Voyez-vous, non seulement Dieu choisit pour enclencher un miracle une faible base, mais en plus, pour que le miracle se déclenche, il attend que nous perdions le peu que nous avons. Perdre, c'est un verbe du royaume de Dieu. C'est un verbe qui est associé à la foi. L'homme dit « amassons et gagnons ». Quand Jésus nous dit « si tu perds, tu gagnes ». La veuve de Sarepta a perdu son huile et sa farine en préparant un gâteau pour le prophète Élie. L'enfant de Galilée a perdu ses pains et ses poissons qu'il avait pour se nourrir. Gédéon, pour combattre, a perdu l'armée qui était venue le rejoindre. Pour une famille, pour quelqu'un au milieu de nous, il peut y avoir une perte sociale pour le royaume de Dieu. Pour une église, il peut y avoir une perte dans ses ressources humaines. Dieu appelle et Dieu envoie ces jeunes gens qui ont grandi au milieu de nous. Perdre afin de gagner en abondance. Cette femme possède donc un flacon d'huile qui certainement était réservé pour son agrément du parfum. Oh, je ne pense pas que ce flacon avait la même valeur que le beau vase d'albâtre rempli d'un parfum de grand prix, un parfum de nard pur que Marie a répandu sur Jésus. Mais malgré tout, cette petite fiole d'huile de parfum avait une certaine valeur. Insuffisante pour payer toute sa dette, mais peut-être pouvait-elle négocier une part de sa dette avec cela. Mais Dieu lui demandait de briser son flacon et de donner les quelques gouttes qu'elle avait. En situation de crise, le risque est grand de vouloir s'attacher au peu que l'on a, qui représente une petite valeur. C'est ce que j'appelle le danger de consommer la base au lieu de la faire fructifier. Dans Genèse 26, il y a un récit au sujet d'Isaac, fils d'Abraham. Il était dans Canaan dans une période de famine. Il disposait certainement de quelques kilos de blé pour nourrir les siens et tout le clan qui l'accompagnait, mais c'était insuffisant pour traverser ce moment difficile. Il aurait pu se dire « mangeons et puis nous verrons ce qui arrivera ensuite », mais il choisit la voie de l'Éternel. Lui qui n'était pas agriculteur mais qui était berger, choisit dans un temps de crise, de famine, non pas de consommer sa base, mais de la semer. Et Genèse 26 nous dit que cette année-là, dans un temps de famine, Dieu bénit Isaac et il moissonna au centuple. Cette femme aurait pu vendre son flacon de parfum et apporter un peu d'argent au créancier. Celui-ci aurait été peut-être apaisé temporairement, mais ensuite, que serait-il advenu ? La situation aurait alors empiré, parce que chez elle, il n'y aurait plus rien du tout. La base du miracle aurait été consommée. Le miracle ne se déclenchera qu'en refusant de consommer le peu que nous avons et en acceptant de le perdre. La veuve prit son flacon d'huile et le brisa. Alors question, qu'est-ce qui la poussa à faire cela ? L'amour. L'amour pour ses enfants, bien sûr. C'est l'amour qui l'a poussée à perdre ce peu d'huile qu'elle se gardait pour elle et l'a donnée pour qu'un miracle s'accomplisse. Mes frères et sœurs, comme Paul l'écrit, c'est l'amour qui rend la foi agissante. La puissance de la foi, l'ampleur de la foi, l'impact de la foi, c'est l'amour. L'amour pour ceux qui nous entourent. Petit point encore concernant ce passage et cette fiole d'huile. Je le disais tout à l'heure, ça vous a interpellé. D'après certains commentateurs, l'huile dont il est question ici serait donc réservée à son usage personnel à titre de parfum. Je vous ai dit que c'est la même huile qui aurait pu servir en quelque sorte à nourrir ou encore à guérir, à consoler. Que faisons-nous de ce que nous avons ? Que faisons-nous de la base du miracle ? Gardons-nous ces choses pour notre confort, un peu de parfum ? Ou sommes-nous conscients que ce que Dieu nous a donné est là avant tout pour être partagé, pour guérir, pour panser les plaies et pour nourrir ceux qui ont besoin de la parole de Dieu autour de nous. Et donc, dans la maison de cette femme, tous les éléments du miracle étaient alors réunis. Il ne restait plus qu'à Dieu à faire sa part, accorder le signe de multiplication. Mais vous le comprenez bien. La dimension du miracle était déjà définie par l'action de cette femme. Elle avait donné la base, le flacon d'huile, et elle était allée chercher les vases qui étaient dans sa maison. Tant qu'il y avait des vases, l'huile coulait. Elle y avait pris goût. Elle avait rempli tous les vases. Et dans tous les coins de la maison, elle en cherchait un. Et puis un moment, elle cherchait, elle n'en trouvait plus. S'adressant à son fils, elle lui dit, « N'y en a-t-il pas un autre ?» Et il lui dit, « Non, ils sont tous pleins. » Alors, l'huile s'arrêta. Ainsi donc, c'est elle qui, par sa foi et son amour et sa vision, avait défini l'ampleur du miracle. Y aurait-il encore eu 20 vases ? Ils auraient été remplis. Vous comprenez pourquoi je dis que la puissance du miracle, elle vient de nous, et non pas simplement de Dieu. Je veux passer maintenant, dans cette dernière partie, à une application qui concerne nos vies, qui concerne notre assemblée. Notre assemblée est un flacon. L'image de l'huile, bien sûr, nous renvoie au Saint-Esprit. Mais ne sommes-nous pas, nous, des temples du Saint-Esprit ? Nous qui avons été sauvés en Jésus-Christ, renouvelés par la puissance du Saint-Esprit et remplis du Saint-Esprit, ne sommes-nous pas de l'huile qui remplit le flacon de notre assemblée ? Et au point où nous en sommes, nous devons reconnaître que vraiment notre Église est un flacon. Et souvent, nous nous sentons bien à l'étroit. Comment rajouter encore de l'huile sans que tout déborde ? Comment éviter alors que de l'huile précieuse ne se perde ? Et nous devons reconnaître aussi ceci. De plus en plus, l'huile, vous, chacun d'entre nous, l'huile que nous sommes nous sert à nous parfumer. Qu'est-ce que je veux dire ? De plus en plus, les équipes de ministère se renforcent. Oh, bien sûr, certains me diront, je les vois, nous avons encore besoin, mais on va de plus en plus dans un besoin de confort. Et avec les années, de plus en plus d'équipes se sont constituées. Dieu en rajoutera, oui, mais ça sera encore davantage pour nous parfumer, davantage pour notre confort. Autrement dit, les ministères, l'huile que Dieu donne à l'Église, sert de plus en plus à nous parfumer, à rendre la vie agréable au milieu de nous, plutôt qu'à penser, plutôt qu'à guérir, plutôt qu'à nourrir. En même temps, nous avons bien conscience que ce flacon rempli d'huile que nous sommes reste peu de choses par rapport à notre besoin. Le créancier est là et il menace. Il menace de prendre ceux qui nous entourent et parfois même menace-t-il de prendre ceux qui sont dans nos maisons. Comment regardons-nous ceux qui sont dehors ? Comme des étrangers ? Dieu les regarde comme ses enfants. Dieu les regarde comme des enfants qui sont menacés d'esclavage, qui sont menacés par le créancier. Jésus-Christ a payé la dette, c'est vrai, mais il nous envoie proclamer la délivrance. Et dans cette ville, nous voulons contribuer au rachat. Nous voulons payer la dette, en quelque sorte, en accomplissant l'œuvre que Jésus-Christ nous donne. Nous avons donc l'huile. Nous sommes cette huile, vous êtes cette huile. C'est bien. Dieu a ajouté, il a béni, mais maintenant, il nous faut passer un stade supérieur. Il nous faut un véritable engagement qui passe premièrement par l'acceptation de perdre. Je veux briser le flacon de notre assemblée et commencer à verser l'huile que nous sommes. Et par la grâce de Dieu, aller dehors pour trouver des vases que nous allons remplir avec cette promesse que tant que nous verserons de l'huile, Dieu remplira toujours notre Église d'une huile nouvelle. Elle ne fera jamais défaut. Sommes-nous prêts à perdre l'huile de notre confort ? Sommes-nous prêts à déverser notre huile dans d'autres vases ? Dans des vases extérieurs à notre maison, mais que nous allons ramener dans notre vision ? Mais bien plus, es-tu prêt, mon frère, ma sœur, toi, précieuse goutte d'huile, à être versée dans un vase? Je crois que c'est là le ministère pour les années à venir de notre assemblée. Nous sommes un flacon et nous ne sommes qu'un flacon face à la dimension de la dette de cette ville. Nous sommes un flacon plein d'huile. Dieu n'en rajoutera pas une goutte si elle vient à se perdre. Et je vais être très pratique sur deux choses. Vraiment, Dieu m'a interpellé. Je relisais le premier message de vision que je partageais avec vous il y a quelques années. Il y avait alors 250 personnes et je disais dans ce message, nous allons travailler et nous allons prier Dieu, nous organiser pour atteindre 600. Nous sommes à 600. Et ma conviction, c'est que Dieu dit, tu as demandé 600, c'est bien, mais tu n'en auras pas plus. Dans ce flacon-là, Dieu met pour moi une limite. 600 vous êtes, 600 vous resterez, si vous n'acceptez pas que le flacon soit rompu. À vrai dire, il a raison. parce que je ne sais pas comment nous ferions pour être plus que 600. Et si nous acceptons maintenant de perdre, Dieu ajoutera et il multipliera. Mes frères et sœurs, soyons clairs. Pourquoi demander au Seigneur d'ajouter des âmes? Nous n'avons pas la place. Nous n'avons pas la place pour les recevoir. Alors Dieu nous dit, tu voulais rajouter des âmes? Allez chercher des vases. Soyez en adéquation avec vos prières. Mais vous savez, parfois nous sommes tellement attachés à l'huile de notre confort. Seigneur, on est bien ensemble. Oh, j'entends la chose. Oui, la communion fraternelle. Et alors, nous allons être un peu séparés, nous n'allons plus nous voir. Nous allons découvrir d'autres frères et sœurs. Des gens qui ont besoin de Jésus. Nous voulons vivre les actes des apôtres, mais souvent nous ne sommes pas prêts à en payer le prix. Longtemps, Pierre est resté à Jérusalem. Un jour, il a fini en prison. Il a réfléchi, il est parti. Je ne dis pas que nous allons, en persévérant dans cette voie, avoir des soucis, des épreuves, quoique Dieu est capable de nous en envoyer pour nous disperser si nous refusons d'obtempérer. Mais si nous voulons encore aller de l'avant, il est temps maintenant de briser notre flacon et d'aller chercher des vases et de les ramener dans notre vision. Nous pourrions dire, c'est vrai Seigneur, élargis le flacon, après tout. Fais de nous un vase pour que nous puissions accueillir davantage de personnes, compter davantage d'huile au milieu de nous. Je le crois, j'admets que je peux me tromper. Le projet du Seigneur pour moi n'est pas de faire cela avec nous, en tout cas pas pour l'instant. Il ne veut pas que nous devenions un vase de grande contenance, il veut que nous devenions un flacon verseur. Voilà le défi qui est devant nous. Un flacon verseur, vous versez. Mais verser, ça veut dire perdre. Perdre des ministères qui se sont levés au milieu de nous, qui ont été formés, qui maintenant sont capables de servir, les perdre pour qu'ils aillent ailleurs. Vous imaginez bien dans l'église de Derbe, il y avait ce jeune Timothée qui avait grandi. Ah, Seigneur, on compte sur lui, voilà. Et puis Paul est passé. Une calamité, ce Paul. Partout où il passe, il prend les meilleurs. Et il les emmène avec lui pour aller on ne sait pas où. Moi, je vais vous dire, la plupart des églises n'auraient pas supporté avoir un homme de Dieu comme Paul dans leur église. Il était insupportable. Il était intenable. Il ne pouvait pas rester en place. Chaque fois qu'il parlait, c'était pour parler de nouveaux projets. Allons dans ce village, allons dans cette ville. Allez, toi, je te prends avec moi, on y va. Oh, mais attends, attends. Mais c'est ce que nos pères ont fait aussi. Ils passaient dans les églises et ils trouvaient là parfois des jeunes de 18 ans, à peine sortis de l'adolescence encore. Non, ils n'étaient pas en jean et basket à l'époque. Mais qui aurait misé sur eux? Ils les prenaient. Ils étaient tout secs, à peine secs, sortis de l'eau du baptistère. Ils avaient prophétisé une ou deux fois dans l'église et allez, ils les emmenaient. Il y a un projet, une implantation dans telle ou telle ville, dans tel ou tel village. Et c'est comme ça que notre mouvement s'est développé. Aujourd'hui, nous voulons de l'huile de confort. Est-ce ça la vision de Jésus-Christ? Dieu nous appelle à être un flacon verseur. Il faut maintenant considérer dans quoi nous allons verser l'huile. Nous ne voulons certainement pas la répandre n'importe où, à terre, mais dans des vases. Et les vases sont dehors. Il nous faut aller chercher. Un temps, je me suis dit, Seigneur, mais nous t'avons présenté des vases. Au début, il y avait un culte. Maintenant, il y a trois cultes. N'est-ce pas, Seigneur, que nous t'avons présenté des vases et que tu les as remplis? Et j'ai compris que le Seigneur m'a dit, non, tu ne m'as pas présenté des vases, je n'ai fait que remplir le flacon. Nous ne sommes pas encore allés chercher des vases. C'est maintenant le temps. Maintenant le temps de regarder au-delà. Maintenant le temps de regarder aux besoins de cette ville. C'est pour ça que il y a une grande joie dans mon cœur. Avec nos frères et sœurs, lorsque nous nous sommes rassemblés vendredi soir à Noisy-le-Grand, pour commencer à prier ensemble, à parler ensemble de ce projet d'implanter une église sur ce secteur. Et nous vous demandons votre prière. Vous n'habitez peut-être pas là-bas, mais nous avons besoin de votre prière. Parce que c'est le ministère de notre église. Et si nous en avons une vingtaine, trentaine qui s'en vont, ne les regardons pas simplement comme nous quittant, mais regardons-les comme une bénédiction que nous apportons. Et si nous en perdons 20 ou 30 du milieu de nous, Dieu en ajoutera encore 20 ou 30. Je vous demande aussi de prier. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais je vous demande de prier. Parce qu'une porte est en train de s'ouvrir pour un travail sur Paris. Et pour nous, c'est très important. Parce que nous n'oublions pas Paris. Nous avons une vision du Grand Paris avec Marne-la-Vallée-Ouest. Mais Paris, c'est le cœur de notre appel et du ministère de cette assemblée. Le Seigneur, finalement, a aussi attiré mon attention sur ce point. Les vases qu'a trouvés la veuve étaient déjà faits. Elle n'a pas eu besoin de les former, elle n'avait qu'à les remplir. Elle devait les prendre, les ramener dans sa maison, les ramener dans sa vision et les remplir. Je crois que Dieu va nous montrer des vases tout faits, qui n'attendent qu'à être remplis, à condition de sortir et d'aller dans des maisons. Que sont ces maisons, que sont ces vases? Je les vois comme autant de lieux. Je les vois comme autant de milieux socio-professionnels, économiques, culturels, dans lesquels nous allons nous déverser des lieux et des milieux. Nous avons une histoire à écrire devant nous. Et véritablement, notre Église est sur le point de franchir une nouvelle étape. C'est ma conviction, je vous l'ai dit. L'Église ne grandira plus tellement si nous restons comme nous sommes. Je vous l'ai dit aussi, je n'ai pas envie de faire de quatrième, de cinquième culte. Je n'en vois pas l'intérêt. Je vois plutôt un intérêt beaucoup plus grand à aller trouver des vases et à les remplir. Mais ce miracle, ce n'est pas le miracle de quelques pasteurs. C'est un miracle qui s'accomplira par l'engagement de chacun. Ne dis pas ma place est ici, car tu ne sais pas ce que Dieu a préparé. Ne limite pas Dieu, car Dieu peut encore t'utiliser et te surprendre dans les choses qu'il a préparées. Ne soyons pas de ceux qui pleurent parce que nous perdrions quelque chose, mais au contraire, soyons heureux, parce qu'en perdant, nous gagnons au centuple. Alléluia.